Bonsoir à vous, c'est très très supersonique. On n'entend rien, alors ça n'arrive pas. Et puis, on tourne le bouton juste un peu, et là, ça change tout. Le son comme trace de ce qui arrive, de ce qui a été et de ce qui demeure. Un éclat pour dire la foudre ou la prise de conscience, un grésillement pour dire la perturbation ou l'inverse. Quand ça fait du bruit, ça convainc, ça imprime chemin direct, oreille, cerveau. Et pour ça, il faut des traducteurs, ah oui, assermentés si possible, sérieux, efficaces. Les magiciens de l'invisible avec la cape et tout. La culture a ses machines, les machines ont leur culture. C'est supersonique, salut les androïdes et bienvenue. Tout à l'heure, nous serons avec un de ces magiciens, le compositeur électronique supersonique Christophe Ruetsch, compositeur sur scène, créateur d'espaces sonores, qui a travaillé notamment sur Tchernobyl à travers plusieurs pièces. La radioactivité, voilà de l'invisible à effet que Christophe Ruetsch fait entendre. Il sera là, donc, dans la deuxième partie de l'émission. Mais pour le moment, place à la voix des machines, la voix des robots.
Alors, bon, pour commencer l'émission... On a rendez-vous avec Olivier Piétquin, un chercheur, professeur à Lille, et membre de l'Institut Universitaire de France, un chapeau bas. Nous allons parler avec lui de la voix des machines, des avatars, des androïdes. Salut. Olivier Piétquin s'est notamment occupé du projet Hilaire. L'objet de ce projet était de... faire rire les robots. les machines parlent. Et vous parlez aux machines, quoi. Et celles-ci pourraient bien rire bientôt. Si. C'est vrai, quoi. Ah ouais, il y a... On y va.
Bah oui, on y va, voilà, une voix de synthèse, comme on peut en trouver en ligne parfois, ici et là. Celle-là était issue des travaux d'une société spécialisée dans les technologies vocales, évidemment. Une société qui s'appelle Voxygène, et il y a un petit moteur en ligne qui permet de tester les multiples voix programmées à qui on fait dire ce qu'on veut, comme ce texte de présentation. Donc une voix de synthèse pour annoncer l'objet de notre première conversation de ce soir. Avec vous, Olivier Piétquin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avec nous depuis Lille, depuis France Bleu Nord. On salue Aurélien Charles qui est au son. Vous êtes professeur à Lille 1, voilà, on l'a dit. Alors la voix de synthèse à l'instant l'a dit, mais bon, c'était pas forcément très clair. Vous êtes membre de l'Institut Universitaire de France. Alors comment, au-delà de ces titres-là, comment dit-on votre spécialité? Est-ce que vous êtes spécialiste du signal, de l'apprentissage de la machine, de l'apprentissage par elle-même, par la machine, du dialogue oral avec la machine? C'est un peu tout ça, non, votre domaine de recherche, ça recroise un peu tout ça?
Oui, c'est un peu ça. Oui. Donc moi, en pratique, je travaille essentiellement sur ce qu'on appelle l'apprentissage automatique, appelle machine learning en anglais. Et j'ai un domaine d'application privilégié qui est effectivement l'interaction machine et particulièrement l'interaction vocale.
L'interaction donc, vocale qui intervient déjà dans la vie de tous les jours pour tout un chacun?
Oui, tout à fait. De plus en plus, on va quand on va essayer d'appeler une hotline ou quand on va avoir un service client, etc., on va devoir souvent d'abord interagir avec une machine. Et donc oui, ça arrive de plus en plus dans la vie de tous les jours. Oui.
Et donc ça, c'est vos travaux permettent quoi, la meilleure compréhension par la machine, la meilleure communication entre la machine et l'être humain. Ça fait partie des objectifs, si on peut les définir comme ça. Ça fait un peu recherche très très appliquée quand on en parle comme ça, mais est-ce que ça fait partie des objectifs?
Oui, en fait, depuis assez longtemps, le traitement de la parole et puis l'interaction vocale est l'objet de beaucoup de recherches. Et finalement, c'est des recherches qui sont menées en parallèle. Et puis quand on essaye de faire un système interactif basé sur la parole, il faut mettre ensemble tous ces systèmes. Et effectivement, ça peut donner l'impression que c'est plus de l'ingénierie que de la recherche, mais tous les systèmes en parallèle qu'on met ensemble sont chacun des objets de recherche. Donc effectivement, il faut par exemple reconnaître la parole, donc transformer le signal sonore en un texte. Ensuite, il faut comprendre ce qui se dit, donc c'est-à-dire prendre le texte et puis essayer d'extraire la sémantique, le sens de ce texte. Ensuite, il faut essayer de produire une réponse adéquate, donc il faut choisir finalement quelle information transmettre à l'utilisateur en fonction de ce qu'il a dit, de ce qu'on a compris de ce qu'il a dit. Ensuite, il faut, une fois qu'on a déterminé les concepts à faire passer à l'utilisateur, il va falloir synthétiser du texte pour pouvoir matérialiser ce sens, et ensuite, à partir du texte, il va falloir synthétiser de la voix, de la parole, du son, pour le transmettre finalement la réponse. Et tout ça doit se faire suffisamment rapidement pour qu'il n'y ait pas trop de latence et que ça paraisse naturel à l'utilisateur humain. Et au final, moi, je m'intéresse particulièrement à la partie centrale, celle qui décide quoi dire, finalement. Quels sont, en fonction de ce qu'on a compris, quels sont les concepts qu'il faut faire passer comme réponse à l'utilisateur, en fait.
Ça veut dire que dans la mécanique là, que vous venez de décrire, Olivier Piedquin, il y a un passage par le texte, à un moment donné ?
Oui, souvent, oui, on passe de la parole au texte et du texte à la parole. Et c'est ensuite des méthodes de manipulation, de compréhension du texte qui sont utilisées pour extraire le sens des phrases qui ont été prononcées par l'utilisateur ou de générer du texte à partir de sens. Oui.
Alors, il y a une grosse année, fin 2014, il y a un projet auquel vous avez beaucoup participé, au cœur duquel vous étiez, qui s'appelle le projet ILER, un projet européen, un projet de recherche, qui a pris fin après, je crois, 3 ans, c'est ça, 3 ans de travail,
c'est ça,
qui a pris fin comme c'était prévu. Et l'objet de ce projet de recherche, et pour tout vous dire, c'est ça qui nous a incité à prendre contact avec vous pour organiser cette rencontre ce soir dans Supersonic. L'objet de ce projet de recherche, c'était le rire. Le rire des avatars et le rire des robots. Alors, c'est quoi l'histoire de ce projet de recherche ? C'est né comment ?
Ah, la genèse, alors en pratique, souvent ça vient de 2 ou 3 chercheurs qui discutent un peu de leurs recherches respectives, souvent dans des conférences un peu loin, où ils sont un peu éloignés de leur préoccupation du laboratoire, de l'enseignement, etc. Et puis qui effectivement cherchent un sujet sur lequel ils pourraient collaborer ensemble. Et il se trouve que là, effectivement, il y a eu 2-3 chercheurs qui effectivement travaillaient sur les avatars, enfin une personne sur les avatars, l'autre sur le traitement du signal plus la parole, et une troisième sur l'apprentissage automatique, et qui se sont dit finalement que pour essayer de rendre un peu les avatars plus humains, plus sympathiques à utiliser, plus faciles à utiliser aussi, il faudrait les doter de signaux que finalement on utilise tous les jours quand on discute les uns avec les autres, c'est-à-dire des signaux de rire. On ponctue finalement toutes nos interactions avec du rire, et ils se sont dit finalement ça manque finalement aux avatars, et donc on va essayer de faire un projet dans lequel on va mettre nos compétences ensemble pour doter les avatars de ce signal dont on dispose nous et qu'on utilise tout le temps.
Mais alors faut rappeler, voilà. Les avatars, c'est la représentation par exemple d'un visage humain, la représentation d'un être humain sur l'écran, pour faire vite.
C'est ça, oui, c'est vrai que, oui. J'en ai pas parlé, mais c'est effectivement une représentation en 3D finalement d'un être humain. Et qui est censé effectivement avoir une personnalité avec lequel on devrait interagir de manière naturelle. C'est pour ça qu'on essaye de le doter du plus de caractéristiques humaines possibles.
Alors le projet ILER avait à la fois pour but, si je ne me trompe pas, de connaître le rire humain déjà avant toute chose, afin de poursuivre la connaissance de ce qui reste encore, sinon un mystère, en tout cas une chose à questionner. Et à côté de ça, développer donc la capacité des machines, au sens pour le dire large, des capacités à rire, possiblement pour les machines. Forcément, quand on se retrouve comme vous dans ce projet-là, pendant 3 ans, on se dit qu'on va vers quelque chose d'un peu étonnant, d'un peu bizarre, de forcément inattendu.
Oui, vous avez raison. En fait, après en être arrivé à l'idée que ce serait bien de doter les machines de rire, il faut encore savoir si ça a un sens, si c'est utile, si ça, à quoi ça va bien pouvoir servir. Et puis effectivement, dans le consortium, donc c'est un groupement de chercheurs qui viennent de différentes universités avec des compétences différentes. Ce consortium a grandi et puis a fini par avoir des compétences diverses, et notamment par exemple des psychologues qui cherchent à étudier l'impact du rire sur certaines personnes, ou à comprendre comment le rire est généré, à quoi il sert, quels sont les différents types de rire, etc. D'autres personnes qui ont plutôt essayé de s'intéresser à l'animation d'un corps entier. Comment est-ce qu'on fait pour... parce que finalement, le rire, ce n'est pas que seulement les lèvres, le sourire, le visage, c'est aussi tout le corps entier qui bouge. Et puis finalement, effectivement, on en est arrivé à quelque chose de relativement complexe. D'un point de vue scientifique, mais aussi finalement d'un point de vue interaction humain, etc. Et on a beaucoup discuté autour de ce projet parce qu'effectivement, on ne sait pas trop où on va, effectivement.
Alors, on a posé la question à certains robots ce soir qui souhaitaient participer à l'émission de ce soir, et pas mal d'entre eux ont dit oui, donc on leur donne la parole à travers une série de questions. Et encore une fois, des voix synthétiques, c'est la voix des robots. Ils vont vous poser des questions à vous, Olivier Piedquin. On va voir si vous pouvez leur répondre et apporter des réponses à leur curiosité forcément légitime, puisqu'il s'agit de leur propre rire, leur rire des avatars et le rire des robots. Première question d'une première robot.
Salut ! Le rire, c'est du sang. En quoi la reproduction synthétique du rire diffère-t-elle de la reproduction synthétique de la voix en général ?
Voilà, une bonne question toujours avec ce logiciel en ligne de chez Voxygène. Alors effectivement, est-ce que c'est différent de reproduire la voix et de faire parler un robot et de le faire rire ? Olivier Piedquin.
Oui, c'est assez différent, oui, parce que la voix, enfin en tout cas la parole, je pense que c'est plutôt de la parole dont vous voulez parler. La parole est en fait constituée d'un certain nombre de sons qui sont propres à la langue dans laquelle on parle et qui sont en nombre fini. C'est-à-dire qu'en français, par exemple, il va y avoir 36 sons différents, on ne va pas en avoir plus. Et donc c'est quand on va reproduire de la parole, on sait à peu près quel type de son on va voir générer. Alors que quand on rit, on utilise à peu près tout ce qu'un conduit vocal peut produire comme son, et pour essayer de faire quelque chose qui est naturel et qui semble bien se comporter par rapport à l'avatar avec lequel on est en train d'interagir, effectivement c'est beaucoup plus compliqué. Du coup, on doit arriver avec des méthodes qui sont un peu plus nouvelles que celles qu'on utilisait par rapport à la parole, et qui permettent de générer tout un tas de sons différents, avec des rythmes différents, des intensités différentes, des durées différentes, etc. Donc oui, c'est assez différent. Oui.
Et ça nécessite donc ces recherches spécifiques. Une autre question, cette fois, ouais. Le robot est un petit robot, il s'appelle Mathéo.
Vous travaillez sur l'imitation, je crois. En quoi l'imitation joue-t-elle sur l'apprentissage du rire ?
Ah oui, alors l'imitation, ça fait partie de vos recherches personnelles, Olivier Piedquin. Comment ça joue dans la question qui nous occupe ce soir ?
Tout à fait, oui, je travaille sur l'imitation, c'est-à-dire que j'essaye d'apprendre des comportements aux machines qui soient similaires aux comportements des humains, parce que c'est en tout cas une approche comme une autre, mais c'est une approche qui se dit finalement que le meilleur comportement pour interagir avec un humain, c'est finalement celui de l'humain. C'est un peu la machine la plus compétente pour interagir avec l'humain. Et c'est particulièrement vrai pour le rire, puisque savoir quand rire, savoir quel type de rire générer finalement, quelle intensité, dans quelles circonstances faut-il rire, c'est assez compliqué à modéliser. Et donc finalement, chercher à ne pas faire de modèle, mais à simplement imiter l'humain dans une conversation, c'était la méthode qui nous semblait la plus appropriée dans ce projet.
Oui, c'est ça. Il faut qu'en face, l'interface, l'avatar ou le robot ne soit pas déconnecté de la situation, c'est ça ?
Oui, c'est ça, oui. C'est, non seulement il ne faut pas qu'il rie à tout bout de champ, je veux dire, il ne faut pas que la machine se mette dans une conversation à rire en permanence. Il ne faut pas non plus qu'elle ne rie pas, parce que sinon ce n'est pas naturel. Et vraiment, il faut qu'elle rie sans interrompre les gens, il faut qu'elle rie sans gêner les gens, parce que si on commence à avoir des éclats de rire au milieu d'une conversation, c'est un peu gênant en fait. Et donc si on veut avoir une interaction naturelle, il y a tout un tas de paramètres qui sont vraiment très compliqués finalement à gérer. Et donc voilà, donc on s'est dit que finalement ce qu'il fallait essayer de faire, c'est reproduire le comportement des humains dans ces situations.
Justement, je crois que ce que vous venez de développer recoupe une question qu'une autre robot préparait pour vous, c'est Emma.
Rire, c'est rire en société, rire en fonction des autres. Travailler sur le rire chez les machines, est-ce imaginer une société des machines ?
Bon, disons que c'est une société avec des machines.
Ouais.
Une société des machines, c'est une société dans laquelle hommes et machines coexistent, cohabitent, de manière à finalement quand même, le but est quand même d'améliorer l'expérience humaine, pas réellement de créer une société des machines. Donc l'idée en fait de... c'est vrai que l'idée qu'il y avait derrière aussi ce projet, c'est d'essayer de voir si leur rire pouvait se communiquer. En tout cas, c'est sûr, c'est certain. Mm-hmm. Quand il s'agit de rire humain, quelqu'un se met à rire, finalement, c'est assez communicatif, tout le monde commence à rigoler. Et on a en fait essayé finalement de voir si l'avatar ou la machine, le robot, pouvait produire ce type de comportement, c'est-à-dire si elle se mettait à rire, est-ce qu'elle pouvait avoir aussi cette nature de contagion, c'est comme ça que ça s'appelait dans le projet, la contagion du rire. Donc on essayait de voir si effectivement la machine pouvait rendre les conversations moins tendues, plus sociabilisantes, ou des comportements qui permettent de détendre l'atmosphère, on va dire, et de générer de la contagion chez l'humain. De la même manière, il fallait aussi que la machine, finalement, pour ne pas rendre l'interaction moins naturelle, il fallait que la machine participe de la contagion. Donc s'il y avait effectivement une personne qui rit, que ce rire se contamine finalement aux autres personnes de la conversation, il fallait aussi que l'avatar puisse participer à cette contagion et se mettre à rire de manière naturelle. Donc il y a un aspect social, mais après, la société des machines peut-être pas.
Ah oui, mais en tout cas, machine peut-être comme machine sociale, en tout cas, ça on comprend.
Oui, oui.
On parle avec vous, Olivier Piedquin, des machines, des robots, des avatars et du rire de toutes ces représentations humaines et néanmoins machiniques. On continue cette conversation avec vous, on laisse un peu passer les robots de Kraftwerk. Robots, Kraftwerk, sur l'album de Man Machine. Ah oui, c'était l'occasion ou jamais de passer ce titre, un titre de 1978. Ah oui, alors quand on parle évidemment avec vous ce soir, Olivier Piedquin, de la question des machines parlantes et des machines riantes, qui plus est, forcément on retombe sur certains fantasmes, en tout cas une forme de mythologie de la machine qui parle. Est-ce que ça joue d'une manière ou d'une autre dans votre travail? Est-ce que ça a joué dans votre travail au sein de ce programme ILER, ce projet de recherche au cœur duquel vous avez été pendant plusieurs années? La question, de la représentation de la machine. Évidemment, on pense à HAL, à l'ordinateur de 2001 Odyssée de l'espace, mais il y en a toute une série jusqu'au film Her de Spike Jonze, avec cette voix de Scarlett Johansson qui accompagne le héros et dont il finit par tomber amoureux, mais ce n'est qu'un algorithme, ce n'est qu'une voix de téléphone ou de ce qu'il en reste. Comment vous envisagez cette représentation dans votre travail ?
Le traitement de la parole et puis la synthèse vocale, c'est un peu le graal depuis toujours de l'intelligence artificielle. En tout cas, le fait de pouvoir donner aux machines le pouvoir de parler aux êtres humains et de comprendre la parole, ça fait partie de la mythologie de la science-fiction, mais aussi de celle des chercheurs en intelligence artificielle depuis le début. Ouais. Donc c'est, j'ai l'impression que l'un nourrit l'autre, si vous voulez. C'est une, et d'ailleurs, beaucoup de chercheurs en intelligence artificielle sont fans de science-fiction. Mmh. Donc je peux vous dire qu'effectivement, ça nourrit les fantasmes, mais je pense que la recherche qu'on fait depuis le début nourrit aussi la science-fiction. C'est un peu un aller-retour permanent. Et donc, effectivement, nous, quand on essaye de donner voix aux machines, c'est effectivement pour essayer de les rendre plus humaines, plus intelligentes, enfin, de leur donner un aspect plus intelligent, pour aussi comprendre comment nous, on réagit, comment... Enfin, générer chez les machines des comportements qui semblent humains, c'est aussi une manière de comprendre l'humanité, en fait. Donc,
oui, encore une fois, le programme dont on parle, le projet Hilaire, était à la fois... L'idée était mieux connaître le rire humain et aussi de donner le rire aux machines. Une machine, vous vous posiez justement, encore une fois, une question, Olivier Piedquin.
Bonjour Monsieur Piedquin. Quand un avatar rit, est-ce qu'il comprend qu'il rit ?
Ah oui, bah voilà, c'est le cœur de la question.
Alors ça, c'est une vaste question. Et il faut d'abord, probablement, pour répondre à cette question, il faut d'abord définir ce que ça veut dire que comprendre.
Ouais.
Donc c'est un peu tout le graal de l'intelligence artificielle. Et donner l'impression qu'une machine est intelligente, est-ce que ça revient effectivement à la rendre intelligente ? C'est une question qui est à la base de nos recherches depuis très longtemps. Mais en l'occurrence, non. Dans le projet Hilaire, la machine ne comprenait pas qu'elle riait. En pratique, c'était du rire qu'on va appeler plutôt réactif. C'est-à-dire que la machine riait parce qu'elle était en société, on va dire, et que les humains riaient. Elle riait en réaction, finalement, au comportement des autres humains, mais pas forcément du fait du contenu de ce qu'elle avait compris de la conversation ou de ou parce qu'elle comprenait effectivement qu'il y avait matière visuelle, un gag ou quelque chose qui devait générer le rire. Donc c'était plutôt en réaction au comportement des autres. Donc là, en l'occurrence, on ne peut pas vraiment parler de comprendre qu'elle rit.
Mais néanmoins, au cœur de vos recherches, vous nous l'avez dit au début de la conversation, il y a le machine learning. Donc ça, si je ne me trompe pas, ça signifie des machines qui... Alors je ne sais pas si on peut dire qu'elles comprennent, mais elles apprennent et elles apprennent les unes des autres aussi.
Oui, donc le machine learning, oui, c'est assez à la mode. Hein. Il y a récemment une machine qui a battu le champion du monde de Go.
Oui.
Et c'est des méthodes d'apprentissage automatique de machine learning qui sont derrière toutes ces avancées. Toutes ces avancées. Et donc,
la machine apprenait de ses propres erreurs, hein, c'est ça, on peut dire ça comme ça, sans l'intervention des chercheurs.
Elle joue contre elle-même, oui. Dans ce cas-là, elle joue contre elle-même pendant assez longtemps pour arriver à développer des stratégies qui, effectivement, ont un peu surpris l'humain. Et effectivement, c'est de plus en plus le cas. Donc, le machine learning, en fait, l'idée initiale du machine learning, c'est d'essayer d'apprendre à partir de données. Donc, l'humain génère des données dans un grand nombre de domaines, y compris la parole. Quand vous utilisez votre téléphone pour utiliser Siri, par exemple, il faut savoir que les données sont collectées derrière pour améliorer les systèmes, parce que les systèmes vont apprendre à partir de ces données qui ont été collectées. Donc, il y a de plus en plus de sociétés... Et c'est pareil pour les organisations gouvernementales qui collectent des données à tire-larigot ou la médecine, etc. Donc il y a de plus en plus de données qui sont disponibles et les machines sont capables d'extraire des informations de ces volumes énormes de données que les humains ne sont plus capables d'extraire étant donné les volumes importants dont il s'agit. Et donc là, c'est effectivement plutôt le machine learning traditionnel où effectivement on va utiliser les données pour apprendre, pour faire des modèles finalement. Et là, dans le cas précis, dans le cas dont on parlait juste avant, effectivement, la machine a généré ses propres données pour apprendre contre elle-même à jouer au Go. Et c'était effectivement, c'est assez nouveau.
Mais est-ce qu'on peut imaginer qu'une machine, à force de justement de rire, de réaction, en situation sociale, comme vous le disiez, finisse par avoir le sens de l'humour ?
C'est encore un des sujets de recherche qui reste ouvert.
Ouais.
Le sens de l'humour, c'est un vrai problème, parce que c'est effectivement assez propre à l'homme. Mais je pense qu'il n'est pas totalement interdit de penser qu'en tout cas, un jour, on aura des machines qui donnent l'impression d'avoir le sens de l'humour. Après qu'elle l'ait vraiment, encore une fois, c'est toujours compliqué.
Oui, c'est un débat qui peut aussi dépasser les machines. Il se trouve que vous avez aussi, évidemment, en termes de son, ça nous intéresse ici, en termes de son, fabriqué avec cette équipe Hilaire des formes de rire sur lesquelles vous avez travaillé. On peut en écouter, on peut même les écouter en ligne, tout un chacun. Là, on voit là quelques extraits.
Ha 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 ha
Là, on a vraiment l'impression d'un rire en société, on dirait qu'ils sont plusieurs. Alors, vous avez effectivement, il y a des rires plus longs, plus courts, différentes typologies. Ça servait à quoi? Ça servait à s'adapter, par exemple, à la morphologie de l'avatar qu'on a en face de soi, pendant que vous aviez, vous, en face de vous, pendant ces travaux. À quoi ça servait d'avoir la typologie des différents rires, des différentes intensités, des différentes durées?
Ouais, alors d'abord, je voudrais ne pas m'approprier ce travail. C'est un travail qui a été réalisé par l'Université de Mons. La synthèse propre de rire a été faite par l'Université de Mons. Et les différents types de rire avaient à la fois pour objectif d'effectivement s'adapter à la morphologie et à l'apparence de l'avatar, mais aussi à la situation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rire de la même manière quand on a un rire social qui n'a pour objectif que de montrer qu'on porte attention à ce qui se dit. Mm-hmm. Souvent, on fait des petits sourires, des petits rires dans une conversation pour simplement faire comprendre qu'on est en train de suivre la conversation. Et par contre, effectivement, quand il y a des situations qui sont plus ou moins comiques, il va falloir rire avec plus ou moins d'intensité. Et c'est là aussi que va jouer le type de son qu'on va générer, la durée, l'intensité. Quand je parle d'intensité, c'est l'intensité sonore, évidemment. Mm-hmm. Le rythme aussi, le rythme plus ou moins saccadé, va plus ou moins bien coller à une situation. De la même manière, ça va plus ou moins bien coller à un corps d'avatar, hein, puisque quand on a un rire plus ou moins saccadé, enfin, si on a vraiment un rire saccadé, on va avoir les épaules qui bougent, le thorax qui bouge aussi, et puis donc, c'est pas forcément facile à synthétiser de manière visuelle. Donc là aussi, il y a des contraintes techniques qui font qu'on peut ne pas forcément synthétiser tous les types de rires, en fait.
Mais est-ce que c'est là, ce qu'on a entendu, c'était des rires de synthèse? Enfin, c'est fabriqué comment? À partir du rire existant? Expliquez-nous.
Alors, c'est des méthodes qui viennent effectivement de la synthèse vocale et qui ont été entraînées sur des bases de données de rire. Donc, effectivement, on a eu, pendant le projet, à collecter des bases de données de rire, à les annoter. Donc, les annoter, ça veut dire que il faut qu'on dise où est le début du rire, où est la fin du rire, quels sont les sons qui ont été prononcés à l'intérieur du rire.
Donner des caractères
aussi.
Et à partir
de ces... Des caractères d'intensité, de fréquence fondamentale, donc caractère plutôt grave ou plutôt aigu du son. Mm-hmm. Et donc tout ça a été annoté à la main, donc je peux vous dire que c'est un travail assez ingrat et un peu long. Mm-hmm. Et ensuite, une fois ces données annotées, des machines sont entraînées avec ce qu'on appelle des modèles de Markov, c'est des processus statistiques qui modélisent en fait les séquences temporelles. Donc le rire, c'est évidemment une séquence temporelle, hein. On commence à un moment, on s'arrête à un moment, et au milieu on fait varier le son, et donc cette variation du son avec le temps est modélisée de manière statistique. Et ensuite, à partir de ces modèles statistiques, on reproduit qu'on a appris à partir de bases de données. Et ensuite, on va reproduire des rires en générant des échantillons qui ont des durées assez faibles, de quelques millisecondes. C'est la durée pendant laquelle on va considérer que le signal de parole est stationnaire, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas trop. Donc pendant quelques millisecondes, on génère des échantillons de quelques millisecondes qu'on va coller les uns derrière les autres, et on va essayer de les lisser ensuite de manière à ce qu'il soit le plus naturel possible, le moins saccadé possible.
Est-ce que le rire dans l'intelligence artificielle, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais occupe encore aujourd'hui, je le dis, le projet Hilaire donc, a pris fin 2014, occupe encore aujourd'hui vos recherches à vous?
Alors les miennes un peu moins, il faut le reconnaître, mais par contre dans le consortium il y a beaucoup de gens qui continuent à travailler sur ce domaine. Donc on avait l'université de Gênes, on avait le CNRS, on avait l'université de Mons, et tous ces gens continuent effectivement à travailler plus sur le domaine. Moi en pratique je travaillais effectivement sur le domaine de l'imitation, et donc l'objectif était de décider quand rire et quel type de rire générer. Ce domaine, je continue effectivement à travailler dessus avec des applications plus diverses. Celle-là, c'en était une à l'époque.
Merci beaucoup Olivier Piedquin d'avoir été notre invité dans cette première partie de Supersonic, d'avoir nous avoir ouvert comme ça à cette question étonnante, le rire des machines, mais dont manifestement vous disiez voilà, il reste encore des pistes à creuser. Il paraît que la voix est encore une frontière pour l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous considérez ça comme ça, vous, une nouvelle frontière.
Oui, en tout cas l'interaction par le langage, effectivement, c'est encore une frontière qui n'est pas totalement franchie. Oui.
Alors voilà, merci encore une fois Olivier Piedquin. Je rappelle que vous êtes professeur à Lille 1 et membre de l'Institut universitaire de France. Vous étiez avec nous ce soir à Lille, à France Bleu Nord. Merci beaucoup et bonne suite.
Merci de l'invitation.
Vous écoutez France Culture. C'est Supersonic, l'émission qui fait chanter les robots. Oh, oh, oh. Thomas Baumgartner jusqu'à minuit.
Et c'est la deuxième partie de Supersonic qui commence sur Robot Sauvage par Mills sur l'album Ecotones. Une page. Christophe Kretsch fait partie de cette génération de compositeurs électroacoustiques autonomes qui ont composé tout en inventant leurs propres outils, leurs propres manières aussi, dans un moment de bouillonnement sonore. Il a fallu chercher des lieux de création par les voies habituelles autant que par les chemins de traverse, avec une histoire à connaître sur le bout du potentiomètre et en même temps la nécessité évidente d'être de son époque. Post-Schaeffer, dans le grand bain des possibles. Bonsoir Christophe Kretsch.
Bonsoir.
Je ne sais pas si vous vous représentez dans une génération ou si vous voyez votre parcours avant tout comme quelque chose d'individuel.
Bah, si, je pense que je fais partie d'une génération, ouais, mmh. où on est un petit peu plus libre par rapport aux institutions. On peut travailler chez soi, on peut travailler avec toutes sortes de gens. Mm-hmm. Et je pense que c'était un petit peu moins le cas sur les générations précédentes. Ouais.
Vous, vous êtes nourri en termes d'électroacoustique au sens le plus large. Auprès de quelle source ?
Moi, j'ai un parcours enfin particulier comme tout le monde. J'ai fait un petit peu de rock'n'roll.
Différent comme tout le monde.
Là. Voilà. j'ai fait un petit peu de rock'n'roll ouais. Quand j'étais adolescent. Je continue encore à faire un peu de guitare, tout ça. J'ai fait de la musique. Enfin, j'ai fait une fac de musicologie, donc j'ai eu un cursus aussi de musique savante entre guillemets. J'ai fait du conservatoire et de la musique électroacoustique en conservatoire. Mm-hmm. Donc là, j'ai étudié tous les classiques, on va dire. De cette musique-là, les techniques, enfin j'ai appris cette musique-là en tout cas, enfin j'y suis arrivé vraiment par le conservatoire, je connaissais pas du tout, c'est vraiment un hasard d'avoir atterri un petit peu là, par des amis qui présentaient un concours d'entrée et que j'ai présenté aussi, voilà.
Mais c'est pas le hasard qui fait rester dans la branche.
Non, tout à fait, ouais. Alors ça faisait un petit moment déjà que je faisais pas mal d'improvisation en tant qu'instrumentiste, que ce soit à la guitare, que ce soit sur mon piano aussi. Mm-hmm. J'avais des envies d'écrire, de faire de la composition, et le fait de me retrouver dans un studio pour la première fois avec toutes ces machines justement que je ne connaissais pas, ça m'a plutôt attiré. Je me suis senti très très bien là-dedans. Voilà.
Jouer avec les machines, la machine comme instrument.
La machine comme instrument et la machine comme déclencheur aussi de possibilités, de hasards et d'accidents et de choses à faire avec ça. Ouais.
Mais comment vous avez entendu d'ailleurs la conversation juste avant avec Olivier Piedquin sur le rire de la machine ? Alors pour vous, la machine est instrument, génératrice d'un son qui peut surprendre et ensuite inspirer.
La machine est génératrice, enfin la machine c'est malgré tout un outil et, ouais. Et la machine, tout dépend de ce qu'on en fait.
Mais le jour où la machine rira quand vous lui proposerez de jouer quelque chose, ça ce sera embêtant.
Ça sera un petit peu embêtant, ouais. Ouais. Ça fait un petit peu peur malgré tout, cette histoire de rire de machine tout en étant assez drôle aussi. J'ai travaillé sur un projet il y a 4 ans. Mm-hmm. 3 ans, je sais plus. Un projet d'un auteur qui s'appelle Pascal Rueff, qui travaillait dans ouais. le son aussi, qui m'a amené à Tchernobyl, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et il a écrit un projet qui s'appelle Spati, qui traitait de la volonté de fabriquer justement une machine. Une machine un peu absurde, qui aurait eu comme cadre en tout cas d'être autonome en termes d'énergie. Et cette machine aurait été posée dans des endroits désertés par l'être humain, à savoir des endroits trop sales pour que l'être humain puisse demeurer. Mm-hmm. Et cette machine aurait eu quelques capteurs sommaires, on va dire, de température, de degré d'hygrométrie, de vitesse du vent, de choses comme ça, mais vraiment des choses très simples. Et en fonction de ce qu'elle captait, tous les soirs à une heure fixe, cette machine aurait envoyé une minute de poésie qu'elle avait en banque sonore pour personne en fait. Et cette machine devenait le relais un petit peu absurde de l'être humain, dans ce qu'il a de plus humain, la poésie, dans des endroits qui ne sont plus adaptés à l'être humain. Voilà.
Capter, de produire la poésie en fonction d'un lieu où il n'y a plus d'être humain et diffuser pour on ne sait pas qui. En fait,
voilà, pour les sangliers par exemple.
Pour les sangliers.
Oui, il y a eu des choses comme ça. Ouais.
Ah oui, mais il manque de la poésie pour sangliers, il faudra qu'on en parle un de ces jours. Mais vous avez abordé la question, Christophe Red, justement, à la fois du lieu où on ne peut plus aller et puis vous l'avez dit, de Tchernobyl. Voilà. Oui. Il y a une pièce importante dans votre parcours, qui a donné lieu, si je ne me trompe pas, à la fois à une émission de radio, ici vous étiez en compagnie de Marie-Laure Ciboulet, d'un disque et puis de live encore régulièrement, qui s'appelle Atomic Radio 137. C'est Atomic ça. Radio 137. Est-ce que vous pouvez, on va en écouter un extrait, j'espère un petit peu long, dans la mesure où vous produisez une musique dans laquelle il est agréable de se plonger. Mm-hmm. Donc on va essayer de faire ça quand même ensemble avec les auditeurs de Supersonic. Comment est née cette pièce Atomic Radio 137 qui vous a amené sur les lieux, parler d'un désert trop sale pour qu'on puisse habiter, bah, c'est Tchernobyl.
C'est ça. Alors c'est pas la pièce qui m'a amené là-bas, c'est plutôt là-bas qui m'a amené à la pièce. Je suis parti là-bas par hasard presque, encore une fois. On m'a invité à aller là-bas, enfin on m'a demandé si ça m'intéressait d'aller là-bas. Et après avoir assez longuement réfléchi, j'ai décidé d'y aller. Sachant que j'avais 20 ans moi, en 1986. Donc c'est un événement qui m'a... Donc j'étais conscient, voilà. Après j'étais pas spécialement sensibilisé à ça, j'étais pas militant particulièrement. Et suite à, j'ai dit ok, j'ai passé une semaine en zone contaminée, enfin en bordure de zone contaminée, à aller tous les jours dans la zone à faire des prises de son, ce que je n'avais jamais fait. Moi j'avais un rapport à la prise de son qui était quand même très, de la prise de son en studio, sur des corps sonores qu'on prend de très près, où on cherche vraiment des matériaux, des matières, des couleurs, des textures. Et j'avais jamais fait de reportage ou quoi que ce soit, donc je me suis retrouvé là-dedans sans savoir exactement ce que j'allais en faire, et enregistrer des oiseaux là pour le coup, beaucoup d'oiseaux, beaucoup de nature, une nature très très belle, et à essayer de capter un petit peu ce qui allait pas là-bas, donc en grande partie par mes oreilles, oui.
Est-ce qu'il y avait l'idée, Christophe Wedge, de donner à entendre, traduire une forme d'invisibilité, c'est-à-dire que la radiation, la radioactivité, elle se voit pas. Vous arrivez avec des instruments qui ne sont pas des instruments de vision, en tout cas pas au premier sens du terme.
C'est ça.
Est-ce que vous donnez à entendre ce qui n'est pas visible et qui pourtant est omniprésent là-bas?
Ça faisait partie du résultat, je pense, oui. Enfin, en tout cas, oui. L'invisible, c'est vraiment la thématique de cette zone-là. Ce qu'on entend, ce qu'on n'entend pas, ce qui est là sans cesse, matérialisé quand même par le son via les dosimètres qui bipent sans arrêt et qui donnent un signal sonore très très fort qu'on arrête assez souvent parce que ça devient assez insupportable, et en même temps on a quasiment l'impression qu'il y a une sorte de voix de machine qui parle en morse et dont on ne comprend pas le sens, mais on a l'impression de cette chose-là qui est toujours présente. En tout cas, mes oreilles se sont... mes oreilles, pas que mes oreilles, mais tout mon état perceptif s'est retrouvé quand même très très bouleversé et très chamboulé là-bas. À savoir que au bout d'un certain temps, j'ai pas compris tout de suite et j'ai pas encore tout compris, j'ai pas bien réalisé où j'étais au début, mais... en tout cas, l'état perceptif général, alors que ce soit les oreilles, les yeux, les sens, enfin, tous, on va dire, se sont vraiment élargis pour arriver à un état un peu particulier de réception de ce qui pouvait se passer là-bas, ce qui entraînait des choses assez, assez étranges. Moi, j'ai fait pas mal de petits villages, enfin, ça a été l'essentiel, de me promener dans des petits villages abandonnés. J'ai jamais pu rentrer dans les maisons. Il y a eu des angoisses assez fortes, des moments d'euphorie. Enfin, il y a eu plein de choses. Et après coup, je pense que c'était vraiment dû à un élargissement de la perception générale, quoi, pour justement se mettre à la hauteur de cet invisible, mais qui, en même temps, il y avait d'autres choses qui étaient invisibles, enfin, qui sont tout le temps là. Il y a le terme d'énergie aussi est devenu assez assez particulier là-bas. À savoir, bon, il y avait l'énergie invisible, cette chose-là qui émet en continu, donc la radiation. Il y avait aussi l'énergie de la nature, à laquelle moi j'ai été, enfin j'ai vécu à la campagne toute ma jeunesse, voilà. Donc je pensais connaître, mais pas comme ça. Non. J'ai vu une nature vraiment sans l'homme et
magnétique
d'un certain côté, mais non, elle était, c'était des arbres magnifiques, c'était des oiseaux partout, c'était des fourmilières. Les premières choses qu'on m'a demandé, moi, dans cet espace-là, c'était de faire très attention au sol, de faire très attention à la terre, de pas toucher. Et en même temps, on nous dit ça, et les premières forêts où j'ai été, j'ai vu des fourmilières immenses posées sur le sol, avec des fourmis, des oiseaux, enfin toute une vie, toute une puissance, une énergie vraiment libérée de l'encadrement humain, on va dire, libérée de des forêts qui n'étaient plus taillées, des routes qui vont être recouvertes, une zone qui est en train de se refermer sur elle-même, et avec une énergie énorme, quoi. C'était vraiment c'était très beau de voir cette énergie-là, ouais.
Et c'est là-bas que vous avez donc capté ces éléments sonores qui ont donné lieu à cette pièce multiforme, aujourd'hui Atomic Radio 137. On va écouter un extrait, on va se plonger dans cette première partie d'Atomic Radio 137. Il faut rappeler que dans une grosse quinzaine de jours, ça fera 30 ans, Tchernobyl.
C'est ça.
Thank you. près de minuit 14h. Pripyat, zone contaminée. Latitude, 51 degrés 24 minutes 21 secondes nord. Longitude, 30 degrés 3 minutes 25 secondes est. Réacteur numéro 4, 3 km et demi. Arrêt sur le pont de la mort. Les enfants de Pripyat venaient contempler le spectacle du réacteur en flamme le 26 avril 1986. Entrée dans la ville fantôme. Pripyat, le summum de la ville soviétique des années 70, construite pour le personnel de la centrale. Arrêt sur la grande esplanade. Je ne prends pas les micros. L'œil est hypnotisé. La végétation qui grimpe le long des immeubles. Chacun déambule dans son coin avec son appareil photo. Je m'approche des bâtiments sans crainte, complètement happé par la vision.
17 mai 2008, 10h. Volodarka.
J'arrive par hasard sur une vaste esplanade, le parc d'attractions de Pripyat.
Latitude, 51 degrés 4 minutes.
En face de moi, nord. Une grande roue rouillée avec ses nacelles jaunes canaries.
Longitude, 29 degrés 41 minutes 49 secondes est.
Des voitures tamponneuses aux couleurs jadis criardes.
Réacteur numéro 4, 44 km.
Trelles de métal rouillées. Lambeau de toile. Le silence.
J'ai lu le livre d'Igor Kostine hier soir dans le lit. J'ai réalisé brutalement où j'étais aujourd'hui.
Croisé touriste suédois en belle basket blanche, se prenant en photo devant le dosimètre, le pouce en l'air au pied de la grande roue.
La peur dans le lit d'être sale, contaminé.
Des masques à gaz sur le sol. Dosimètre autour de 5 microsieverts.
Je ne pouvais plus bouger, même plus me toucher les cheveux. Me laver maintenant, changer de vêtements, virer l'invisible.
Une heure d'hallucination totale et nous repartons.
J'ai frotté dur avec le gant. La touche des liquidateurs qui se frottait jusqu'au sang.
Un extrait seulement de Atomic Radio 137, une pièce de Christophe Ruetsch, co-auteur Pascal Rueff, vous nous l'avez dit, Christophe Ruetsch, qui est notre invité dans cette deuxième partie de Supersonique sur France Culture ce soir. Vous disiez tout à l'heure, en racontant comment vous aviez été invité sur ces lieux, Pripyat, à Tchernobyl, à l'époque, donc en 2008, on l'a entendu dans l'enregistrement, que vous n'aviez pas forcément l'habitude de sortir du studio. Alors depuis, vous avez eu l'habitude, vous avez même cherché à ce que vous dites, vous oxygéner en dehors du studio. C'est devenu même un mode d'être en tant que compositeur et musicien.
Oui, c'est ça. Oui, j'ai vraiment eu besoin de prendre de l'air, donc de sortir effectivement des petits studios, des petits haut-parleurs, de travailler aussi afin de sortir aussi de la solitude du studio. Même si j'aime bien y retourner de temps en temps, mais oui, j'avais vraiment besoin d'avoir un autre rapport à la musique, au son.
Quelque chose d'un peu plus collectif.
Quelque chose d'un peu, voilà, c'est aussi passé par la rencontre avec d'autres personnes, d'autres équipes, d'autres artistes.
Dans le spectacle vivant, dans la danse, enfin voilà, quelque chose qui se passe.
Voilà, pas forcément pas forcément avec des musiciens non plus. Enfin, en tout cas, pas qu'avec des musiciens. Donc effectivement, tout ce qui est spectacle vivant, que ce soit danse, que ce soit théâtre. Que ce soit des marionnettistes, je travaille aussi sur des installations, sur des choses assez variées. Ouais. Et ça m'a permis en tout cas de prendre une respiration ailleurs. Ça m'a permis de pousser mon travail dans des directions que j'aurais pas poussé tout seul. Je pense qu'il m'a fallu ce chemin-là en tout cas pour me, entre guillemets, enfin je veux le dire quand même, pour me débarrasser aussi de choses qui m'avaient été sur lesquelles de rails dans lesquels j'avais été mis dans lesquels je me suis mis Mais j'avais besoin d'être confronté à d'autres choses pour pouvoir aussi, moi, affirmer mes choix.
Mais très concrètement, Christophe Rich, ça veut dire que vous cherchez, vous avez trouvé des sons que vous n'auriez pas trouvé, par exemple, pour rentrer dans la fabrication même de votre travail?
Alors, des sons, certainement, mais c'est plutôt dans la façon de les mettre ensemble, on va dire. Je pense que la façon de les fabriquer, non, ça n'a pas trop bougé, si ce n'est qu'en travaillant beaucoup en direct. Je suis arrivé à avoir des façons de faire des matériaux via des systèmes ou des lutteries personnels qui me permettent de générer des matières assez complexes tout en gardant un rapport très musical avec.
C'est-à-dire temps réel?
Voilà, temps réel. Voilà. Alors, j'ai toujours travaillé beaucoup à partir d'improvisation. Quand j'étais vraiment en studio de musique électroacoustique, la façon de faire de la prise de son sur des corps sonores, c'est ça aussi. Hein. Mmh. On fait des improvisations sur des corps sonores et on joue avec les micros, on joue avec les matières. Ça, j'en fais plus beaucoup. Je suis passé vraiment donc avec toutes sortes de machines à garder ce contact très musical et très ludique, en tout cas par rapport à la matière sonore. Et je commence toujours, encore. Mon impulsion en tout cas de départ vient de cette improvisation. Donc il faut que j'ai un procédé d'improvisation, un accès, voilà.
Un accès immédiat à la matière sonore qui va vous permettre d'avancer dans votre composition.
C'est ça, ça me permet de générer des choses, des séquences qui sont plus ou moins formées, en tout cas très improvisées, mais après je reviens dessus. Et à partir de là, je peux construire. Mais personnellement, je ne peux pas construire à partir de rien.
Ouais. Voilà. Quand parmi les travaux en collaboration, les travaux avec, il y a quelque chose que vous préparez en ce moment avec un illustrateur, un graphiste qui est assez étonnant, qui est assez radical aussi, qui s'appelle Vincent Fortan. Il travaille la matière graphique et finalement, quand on voit ses dessins et qu'on entend vos musiques, on se dit qu'effectivement, il y a une rencontre, une évidence à ce que vous trouviez. Il y a ce souci du grain, à la fois sonore et graphique, chez l'un et chez l'autre. Comment vous travaillez ensemble en ce moment?
Alors, on s'est rencontrés sur un projet, on travaille sur un projet qui est créé, ça y est, mais qui va jouer bientôt, qui s'appelle La tête des porcs contre l'enclos, d'une metteuse en scène qui s'appelle Marine Mann. Donc j'ai rencontré Vincent sur ce projet-là. Il était plasticien, moi j'étais le musicien. On s'est tout de suite très bien entendu. Et effectivement, il a un rapport à la matière visuelle qui passe beaucoup par le son aussi, à savoir qu'il travaille sur une sorte de table lumineuse avec une caméra qui filme en dessous ce qu'il fait. Il utilise toutes sortes de matériaux, que ce soit des encres, mais aussi des bouts de choses qu'il récupère à droite et à gauche.
Ce qui est une autre manière d'improviser avec la matière qu'on a sous la main, comme vous disiez à l'instant.
Lui, c'est vraiment un improvisateur ultime, je vais dire. Il ne fait pas que de l'improvisation, mais il a toujours quand même un rapport très immédiat au temps. Et donc on s'est bien entendu, et sur La tête des porcs justement ça s'est bien passé, et le rapport entre ce qu'il faisait et ce que je pouvais faire fonctionnait bien, et donc on a décidé de continuer en duo. On s'est retrouvé pour le moment une fois, on a fait une session de 4 jours où on a développé beaucoup de matière.
C'est comme ça que ça marche. Hein,
c'est comme ça que ça marche. En même temps, on en est au stade où on se pose la question de est-ce qu'on reste dans une forme très improvisée dans ce duo, ou est-ce que on balise cette improvisation, enfin elle gardera quand même un côté libre, mais comment on balise ça et comment on construit, et là on n'a pas encore tout réglé, on va avoir d'autres périodes de travail.
Là on est vraiment dans l'atelier des créateurs. Pour terminer, parce que le temps passe vite, oui. Christophe Kretsch, j'aurais voulu qu'on écoute une pièce que vous avez signée en 2002 qui s'appelle V, dont vous dites qu'elle a un rapport avec le cinéma, à quelque chose de très cinématographique. Là encore on parlait de avec Vincent Fortan à l'instant. Donc, vous dites là, en l'occurrence, une pièce dont la référence serait à chercher du côté du polar des années 50. J'ai lu ça. En vrai, effectivement, à l'écoute, on a une pièce évidemment électroacoustique particulièrement à la fois dense et joyeuse. Il y a quelque chose de presque burlesque, j'ai l'impression. En tout cas, on peut l'écouter aussi comme ça. Et quelque chose qui est de l'ordre de la... Comme s'il y avait une image mentale que vous nous proposez, puis vous lui faites... Prenez le papier, vous faites une sorte de... Vous la froissez, vous la dépliez, vous la repliez. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans cette pièce-là.
C'est ça, ouais. tout à fait. Puis il y a enfin, il y a ça dans cette pièce, il y a ça dans pas mal d'autres aussi. Ce rapport à l'image en tout cas, il n'y a pas de scénario dans mes pièces, ça raconte pas une histoire. Enfin, en tout cas, moi, elles sont pas construites comme ça. Je me fais pas un scénario dans lequel voilà. Mais à l'écoute et je me rends compte. Enfin, V, justement, je l'ai joué il y a 3 jours au Havre. Et je la joue pas souvent, c'est bien dommage. Et j'ai toujours des réactions très très étonnantes du public qui, enfin, chacun vient et me raconte l'histoire qui s'est faite en écoutant ça. Et sur des choses assez différentes. Et c'est vraiment, c'est assez étonnant, quoi.
À nous alors de nous faire notre propre histoire en écoutant voilà. V. Merci beaucoup d'être passé par Supersonic, Christophe
Merci Page. Beaucoup.
Évidemment, on va mettre toute une série de liens pour qui voudrait, et j'espère qu'ils sont nombreux, écouter vos pièces. Certaines sont disponibles en ligne. On va mettre les bons liens pour pouvoir continuer à vous suivre. Merci beaucoup.
Merci.
Et voilà, c'est la fin de Supersonic.
Mais, qui êtes-vous ?
Pour réécouter l'émission, mais, la podcaster, la commenter, et pour tous les compléments aux rencontres de ce soir, rendez-vous bien entendu sur franceculture.fr.
Ah, d'accord. Un robot qui aurait plus besoin de parler, quoi.
Supersonic est préparé et coordonné par Inès De Bruyne.
C'est vrai.
Et réalisé par Véronique Lamandour.
Ouais, c'est vrai.
Au son ce soir, il y avait Pierrick Charles.
Oui, c'est bien programmé en tout cas.
Tout de suite, vous avez rendez-vous avec les Nuits de France Culture. J'adore. Et nous, on se retrouve samedi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Et tenez-vous mieux. Salut.
Salut.